Radio Okapi. Bonsoir à tous. Un nouveau contingent de policiers a débarqué depuis hier à Oicha, dans le Nord Kivu. Le gouvernement explique que c'est pour plus de sécurité avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. L'épidémie d'Ebola qui a sévi dans la zone de santé de Boulapé au Kassai est désormais derrière. Une annonce faite hier par le gouvernement de la RDC. Dans ce journal, de nombreuses autorités applaudissent cette avancée. Le travail de construction des rocades à Kinshasa se poursuit et une nouvelle vague de personnes expropriées vient d'être indemnisée. Notre invité, le président de la commission interministérielle chargée des expropriations, nous renseigne un peu plus sur ce processus. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une séquence d'informations. Nous commençons donc notre journal de ce soir par la province du Nord Kivu. Plus de 1000 agents de police ont été déployés lundi à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. C'est pour renforcer le dispositif sécuritaire dans les agglomérations agricoles de ce territoire avant, pendant et après la période de fête de fin d'année. Marc Marot.
Ces éléments de la police nationale congolaise ont été présentés aux autorités locales et à la population à Oicha lundi lors d'une parade spéciale tenue par le commissaire provincial de la police au Nord Kivu. Ils vont renforcer les dispositifs sécuritaires dans la commune rurale d'Oicha et les agglomérations agricoles voisines, souvent victimes des menaces des groupes armés. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a demandé à la population de collaborer avec ces éléments de la police pour la sécurité de la région. Le général Dédoné Makambo.
Avec la sécurisation de festivités, nous avons déployé un grand nombre de... Et nous demandons à la population de s'approprier de ces mesures pour que nous puissions tous parler le même langage et que nous puissions constituer une équipe. Et tout ça pour la sécurité de personnes et de leur vie. Comme je vous avais dit dès mon arrivée ici, que je commencerai à renforcer les dispositifs qui sont en place. Voilà ce qui se fait aujourd'hui.
Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police a rappelé à ses troupes leur mission de protéger la population et ce bien, mais aussi la discipline et la politisme. Il en a profité pour les sensibiliser à l'utilité de la Caisse nationale pour la sécurité des agents publics, un projet du gouvernement censé garantir la sécurité sociale des agents de l'État. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, toujours la situation demeure tendue encore aujourd'hui dans le village de Bitoi, dans le territoire de Massissi. Selon des sources locales, cette tension fait suite à une altercation entre deux groupes armés des Wazalendo. Des affrontements ont opposé dimanche et lundi deux factions Maïmaï, contraignant de nombreuses personnes à fuir leur localité grâce à Mzati.
C'est mardi, un calme précaire semble s'être rétabli, bien que la situation reste volatile et imprévisible, indiquent plusieurs sources civiles. D'après ces sources, les hostilités ont débuté dimanche matin lorsque des miliciens du groupe Maïmaï Lamouka, dirigés par Noa Mahachano, s'y dirigeaient vers les chefs-lieux du secteur de Katoï. Ils ont rencontré les combattants du groupe patriote résistant congolais Pareko, mené par Mutayomba et Kigingi, au niveau des Bitoï. Cette rencontre a dégénéré en échange de tirs qui ont duré toute la journée de dimanche et se sont prolongés jusqu'à lundi. Pris de panique, la majorité des habitants des villages allant des Bitoï jusqu'à Mutindi, à environ 5 km, ont fui, certains se réfugiant dans la brousse, d'autres dans des zones jugées plus sûres. Selon certains observateurs, ces affrontements seraient liés à un désaccord interne. Une faction souhaitait poursuivre les combats contre les rebelles de l'FCM-23 qui occupent le centre de Katoï depuis une dizaine de jours, tandis que l'autre tentait de les en empêcher. D'autres sources évoquent une lutte pour le contrôle des villages, motivée par des enjeux économiques dans une zone stratégique qui reste l'une des rares parties des groupements Ufamandu 1 et 2 à ne pas être sous occupation de l'FCM-23. En attendant, la situation demeure très instable. De nombreux habitants ayant fui hésitent encore à regagner leur village par crainte d'une reprise des violences.
Province de l'Ituri, un des grands agriculteurs de cacao a été enlevé et tué par des hommes armés lundi dans son champ du village de Manyama dans le territoire de Mambasa. Selon des activités des droits humains dans la région, des dizaines de cas similaires ont déjà été enregistrés en l'espace de 2 mois dans cette région où plusieurs hommes en armes sont en errance et ils interpellent donc ainsi les services de sécurité de garantir la sécurité des personnes et leurs biens dans cette zone où plusieurs fois des activismes des rebelles, des ADF, continuent de régner. Martial Kiza.
La victime a été enlevée par des inconnus armés dimanche dans son champ situé à 15 km de Biakato centre. Hier lundi, il a été retrouvé mort. Des activistes de défense des droits humains dans la zone dénoncent cet énième crime qui s'ajoute à une dizaine d'autres enregistrés dans des circonstances similaires depuis quelques semaines. La particularité de ces assassinats est qu'ils ciblent tous des agriculteurs de la filière cacao, une culture devenue rentable dans cette entité. Cette situation accentue de nouveau l'insécurité dans cette zone où on signale des mouvements d'hommes armés en provenance du Nord Kivu, indique un acteur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, instructeur des défenses des droits humains très active dans la région. Rams Ramazani demande à l'armée de mettre la main sur les auteurs de ces actes crapuleux qui, selon lui, prennent de l'ampleur dans les territoires de Mambasa depuis des mois. Nous n'avons pas réussi à voir l'administrateur du territoire à ce sujet. Bounia Mar Martial Kizabia Bongou, Radio Okapi.
Parlons santé à présent et comme nous vous le disons depuis hier, la RDC a justement déclaré terminer hier l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Bulapé dans la province du Kasaï. Et comme on peut se l'imaginer sur place à Bulapé, la joie est immense dans la communauté. Le chef de groupement de Bulapé indique que la présence de la maladie dans cette région constituait un danger de mort permanent. Héritier Bopé invite ses administrés au respect des mesures barrières. On l'écoute au téléphone de André Katende.
Nous sommes très contents car la présence de la maladie à virus Ebola parmi nous était synonyme de la mort. Lorsque l'on a déclaré la fin de l'épidémie, nous sommes passés de la mort à la vie. On avait peur de la mort parce que quand Ebola est dans un village, c'est la mort. J'ai dit aux habitants de Bulapé que l'épidémie est terminée. On peut se réjouir tout en restant dans le respect des mesures barrières pour éviter la maladie de main sale. Nous devons respecter les mesures barrières pour ne pas enregistrer une autre épidémie. Nous devons garder ce rythme pour éviter toutes sortes de maladies.
Mais après donc cette étape de déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola à Bulapé, que va-t-il se passer? La question a été posée au docteur Dieudonné Mwamba, directeur de l'Institut National de Santé Publique, structure étatique qui était dans la riposte contre cette maladie. Écoutons sa réponse toujours au téléphone de André Katende.
Non, on ne va pas abandonner la zone. Donc, après la déclaration de la fin de l'épidémie, nous commençons une période de 90 jours avec un plan de résilience pour renforcer le système de santé dans la zone santé de Bulapé et même dans les zones autour. Par exemple, déjà, on a eu à commencer pendant la riposte à faire des adductions d'eau à Bulapé parce qu'il y avait dans l'eau qui coule au niveau de l'hôpital et dans la communauté. Nous allons renforcer les structures de santé avec des réhabilitations, des dotations, des engins, des équipements et continuer avec des formations pour être sûr que dans la zone santé de Bulapé et les zones voisines, nous allons vraiment laisser un système de santé renforcé avec des capacités même de diagnostic. Nous allons voir comment doter cette zone d'un laboratoire capable de poser les diagnostics d'Ebola et même des autres maladies. Donc voilà tout ce qui va se faire dans les 90 jours et même au-delà des 90 jours. C'est vraiment le plan de résilience pour renforcer le système de santé dans cette zone.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire séjourne depuis hier en Ngandajika, dans la province de Lomami. Mais avant, Mohindo Nzangi est passé par Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Le ministre a expliqué que sa mission dans la province de Lomami est de lancer les travaux de voie d'accès au parc agro-industriel de Ngandajika. On écoute Mohindo Nzangi s'expliquer ici au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Je suis venu pour lancer les travaux de voie d'accès au parc agro-industriel d'Ngandajika. Vous savez, c'est un très grand projet qui est très cher au chef de l'État Antoine Fixeri Tshilombo, qui a voulu faire d'Ngandajika la plaque tournante de l'agriculture dans cette grande région de Kasaï. Et donc avec les projets Prodan pour lesquels le chef de l'État négociait de l'argent auprès de la BAD, un projet qui n'a pas été exécuté dans les délais que le chef de l'État souhaitait, nous sommes arrivés et nous avons appuyé sur l'accélérateur. Et donc ce projet va avoir lieu lieu, nous sommes venus d'abord pour que le peuple sache que le chef de l'État insiste pour que ces travaux s'achèvent et ils vont s'achever. Nous sommes venus aussi pour dire à la population de Bujumaï que le projet se passe dans une autre province, dans l'Omami, mais le projet de parc agro-industriel de Ngadajika concerne surtout la ville de Bujumaï, puisqu'il s'agit de greniers agricoles qui vont être mis en place pour servir la population de Bujumaï. Pour cela qu'on devait parler avec les autorités de la province du Kasaï oriental, mais nous allons à l'Omami et nous reviendrons ici vous dire les conclusions de ce que nous avons fait sur place.
Dans la province du Haut-Katanga, le commandant bataillon de la police de circulation routière de Lubumbashi met en garde les policiers de circulation routière qui s'adonnent à la tracasserie. Le colonel Jean-Claude Mpalaga l'a fait savoir au cours d'une parade qui s'est tenue aujourd'hui à Lubumbashi. Il indique que tout policier récidiviste sera traduit en justice. Récit de Paulin Munanga.
Cette parade intervient quelques jours après des incidents enregistrés qui impliquent certains éléments de la PCR avec des conducteurs. Dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, on aperçoit certains policiers en train de brutaliser des conducteurs. Dans l'un des incidents, un conducteur s'en est même sorti avec ses deux jambes cassées. Pour le commandant bataillon de la PCR Lubumbashi, les éléments de la PCR sont appelés à éviter des querelles avec des conducteurs et de travailler en toute professionnalité. Colonel Jean-Claude Mpalanga Kayombo.
Ça fait des fois honte de voir des images qui circulent dans les réseaux sociaux qui ne sont pas dignes de la police. Et c'est le moment pour exprimer notre mécontentement par rapport à ces images-là. Nous sommes quand même des responsables, nous sommes un service public de l'État et nous devons en fait être professionnels. Et nous avions parlé à tous les éléments de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage sur la voie publique. Nous avions dit aux policiers d'éviter la brutalité, de se quereller surtout avec les contrevenants sur la voie publique.
Le commandant bataillon a aussi souligné que la PCR n'a pas encore déclenché l'opération de contrôle des permis de conduire à Lubumbashi et de préciser que tout policier qui exige ces documents de bord s'adonne à la tracasserie. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président russe Vladimir Poutine a déclaré aujourd'hui ne pas souhaiter une guerre avec l'Europe, mais y être prêt si les Européens le souhaitent et commencent. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant, a-t-il lancé aux journalistes, accusant les Européens de vouloir empêcher les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
L'invité.
Et comme nous vous l'avons dit, le travail de construction des rocades à Kinshasa se poursuit et une nouvelle vague de personnes expropriées vient d'être indemnisée. Invité des radios Okapi, le président de la commission interministérielle chargée des expropriations, Georges Kochi, salue la patience des bénéficiaires. Il affirme également la volonté du gouvernement de la République d'honorer ses engagements envers toutes les personnes impactées par ce projet routier. Georges Kochi s'entretient à ce sujet avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le secrétaire général.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quel état de lieu dressez-vous du processus d'indemnisation des victimes du tracé du projet Rocade après avoir fait la ronde?
Mais après avoir fait la ronde, je trouve que le processus est en cours et que ça fonctionne correctement tel que nous l'avons prévu parce que nous avons été mandatés par le ministre des Infrastructures et ministre de Travaux Publics John Banza pour voir dans quelle mesure résoudre le petits problèmes qui subsistent encore aujourd'hui pour la bonne marche de la construction des rocades.
Combien de propriétaires sont éligibles pour le moment, donc en ordre de paiement par rapport à cette opération?
En ordre de paiement, il y a 580 personnes sur 3800. La raison est le simple, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore négocié et d'autres qui n'ont pas de documents officiels. Par documents officiels, entendu, les titres fonciers. Sans titre foncier, il n'y a pas de négociation. Donc, bon, on ne peut pas vous payer non plus. Parce que l'État ne vous reconnaît pas comme propriétaire. C'est pour cela que l'État a résolu, par le chef de l'État lui-même, de résoudre ce problème en urgence. C'est-à-dire, préfinancer ces personnes impactées, payer pour eux, qu'ils négocient. Et en retour, lors du paiement, qu'on récupère de l'argent payé.
Lors de la première phase, combien vous avez déjà payé? Et cette deuxième phase qui vient de commencer, combien sont attendus?
Lors de la première phase, sur les 5 100 000 disponibles, on a payé presque 3 800 000. Nous avons privilégié l'intersection des rocades avec la RN1. Ce n'était pas encore prévu, mais nous avons prévu le paiement parce que les travaux doivent aller très vite. C'est ça la différence de 5 100 000 avec les 3 millions et quelques pays. Donc on a du mou pour payer les autres qui se retrouvent sur l'intersection, qu'on continue à payer jusqu'à présent. Pour la deuxième phase, nous avons 4 millions, et les 4 millions, c'est pour payer 104 impactés.
Qu'en est-il, monsieur le secrétaire général, des propriétaires n'ayant pas des documents requis?
Pour ceux qui n'ont pas des documents requis, le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse les aider et avoir des documents de manière à leur permettre de venir négocier, de ne mettre personne de côté. Il faut payer tout le monde. Nous avons déjà payé une partie au ministère des Affaires foncières qui commence déjà à élaborer des documents, des titres fonciers pour ces personnes-là.
En cette phase, quel est le message que vous pouvez lancer aux Quinois qui attendent avec impatience cette route des rocades?
J'ai dit à tous les Quinoises et Quinois qu'ils aient confiance au gouvernement, qu'ils aient confiance à leur commission interministérielle en charge des expropriations, qu'ils aient confiance aux membres du comité de pilotage que compose le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que celui de l'urbanisme et habitat. Les travaux vont bon train, les problèmes on en a toujours, mais on est tenu à les résoudre. Nous sommes des hommes, on est là pour ça, et on est là aussi aujourd'hui pour résoudre certains problèmes, parce qu'il y a quelques points d'achoppement entre le riverain et les entreprises. Si nous sommes là, c'est pour les résoudre.